a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Cette semaine, on fait le point sur les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite à l'aune de l'affaire Khashoggi. La disparition du journaliste depuis sa visite au consulat saoudien à Istanbul met Washington dans l'embarras. Donald Trump, qui a admis que le chroniqueur du Washington Post était probablement mort, avait d'abord cherché à ménager son allié saoudien en mettant en avant les intérêts stratégique liant son pays au royaume sunnite. Mais le ton a changé et le locataire de la Maison Blanche menace désormais l'Arabie Saoudite de très graves conséquences si sa responsabilité était avérée. Nous attendons vos questions. Pour participer, appelez le 001 202 205 26 33. Et pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Nos experts ce soir sont Jean-François Seznec, professeur auxiliaire à Georgetown University et à Johns Hopkins. Vous êtes spécialiste de l'Arabie Saoudite et de la politique étrangère des États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on a également Sami Aoun, professeur à l'université de Sherbrooke au Canada, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, merci d'être avec nous. Sami Aoun, que sait-on ? On ne sait pas grand-chose, mais l'affaire est trouble. Mais à ce jour, que sait-on de cette disparition du journaliste saoudien ?
La seule constante, c'est la disparition elle-même. C'est ce qu'on a comme un document avéré, mais pas plus. Jusqu'à maintenant, il y a des récits différents, contradictoires parfois, mais sans preuve à l'appui. En ce sens, il y a peut-être un certain marchandage qui se fait en attendant peut-être le travail, espérons qu'il soit le plus professionnel possible, soit des instances turques, soit en coopération avec les instances saoudiennes et aussi avec la supervision ou la participation américaine. Mais pour l'instant, il semble que cette disparition est un grand enjeu pour les relations tripartite. De un, la Turquie est en rivalité bien connue et proverbiale pour l'instant avec l'Arabie Saoudite, qu'il soit l'enjeu de la promotion des frères musulmans qui est sur l'ordre du jour turc, et celui saoudien où on met les frères musulmans sur la liste des terroristes. Et les Américains, eux, préfèrent certainement que les deux puissances rentrent sous le parapluie stratégique de Washington. Mais pour l'instant, l'enjeu n'est pas si clair dans ces issues, et même peut-être il faut attendre quelques jours encore pour voir comment on pourrait sortir pratiquement de cette crise.
Alors on va essayer de justement de décortiquer un peu ces enjeux, mais d'abord on va parler un peu de ce qui se passe maintenant. Jean-François Seznec, des journalistes qui disparaissent dans des circonstances douteuses, malheureusement, cela arrive assez souvent. Alors pourquoi l'affaire Khashoggi prend cette ampleur ?
Parce que Jamal Khashoggi était très connu à Washington. On le voyait très souvent dans toutes les conférences. Il avait des amis dans tous les coins. Il a fait ses études aux États-Unis. Le fait qu'il ait été, s'il a été assassiné dans les conditions qu'on dit, ça fait un choc énorme dans la société, surtout à Washington d'ailleurs, parce que les journalistes ici du Washington Post, entre autres, le connaissaient très très bien, puisqu'il travaillait même maintenant au Washington Post. Donc le choc a été énorme. Et en plus, c'est venu par-dessus beaucoup de problèmes. L'Arabie Saoudite, en ce moment, a une très mauvaise presse aux États-Unis à cause du Yémen en particulier. Et donc, beaucoup de gens ont sauté là-dessus, sur cette affaire Khashoggi, pour embarrasser l'Arabie Saoudite à cause du Yémen, à cause de la Syrie, à cause de l'Irak, à cause du droit des hommes, les human rights. Donc, ça crée des problèmes actuels.
Alors, cette affaire, dans les grandes lignes, peut-elle avoir véritablement un impact sur les relations USA-Arabie Saoudite, Sami Aoun ?
Certainement, ça ne va pas passer inaperçu, au moins à courte et moyenne durée. De un, il y a une responsabilité morale par association entre les États-Unis en général, l'administration Trump en particulier, avec les agissements ou la performance du pouvoir saoudien. De un, il ne faut pas oublier que c'est une alliance qui est la plus enracinée dans l'espace musulman et qui date depuis 1945 de ce qui est connu bien, l'entente de Quincy, où il y a eu cette entente d'alliance et qui se résume en deux points. Les Américains assurent la sécurité de l'Arabie saoudite et les Saoudiens ont presque libre cours à imposer ou à gérer leurs problèmes internes. Et encore, l'Arabie saoudite a été un allié très solide, disons-le, dans la guerre froide contre le soviétisme, contre l'Empire soviétique et le bloc de Varsovie. Et plus, les Saoudiens, et en ce sens, monsieur Jamal Khashoggi a joué un rôle. Quand les Américains avaient pour but de chasser les Soviétiques de l'Afghanistan et il y avait cette stratégie pro-jihadiste, et Osama Ben Laden a œuvré en quelque sorte dans une vision commune entre Américains et Saoudiens. Et Jamal Khashoggi, à ce moment, avec un feu vert qui venait du pouvoir saoudien, pouvait être soit journaliste, soit même, plus que ça, un certain médiateur.
C'est ça, des relations quand même qui sont très profondes. Jean-François Seznec, vous en pensez quoi ? Est-ce que un journaliste probablement assassiné pourra avoir un quelconque impact sur ces relations très importantes ?
Il est certain que Jamal Khashoggi avait un rôle qui était beaucoup plus profond que le rôle de simplement de journaliste. Il était aussi très proche de certains membres de la famille royale, de certains clans de la famille royale. Et le fait qu'il ait été assassiné est, dans un sens, un message passé par le Crown Prince, Mohammed bin Salman, un message passé à ses autres clans de se tenir un peu à carreau, si vous voulez. Mais personne s'attendait à ce que la réponse du public américain et international soit si forte. Donc maintenant, ça joue contre le Mohammed bin Salman et dans un sens, le sacrifice de Jamal Radouane servira peut-être à aider certains clans de la famille royale à contrôler Mohammed bin Salman beaucoup plus.
Ouais. Alors, je vous propose qu'on prenne un auditeur en ligne. On a Hassan Omar qui est à Djibouti. Bonsoir Hassan.
Bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à vos invités aussi.
Alors Hassan, avez-vous, j'imagine, vous avez soit un commentaire ou une question, alors on vous écoute.
D'abord, le commentaire, c'est très frustrant et c'est honteux de voir un journaliste qui meurt ainsi, des poupées décapitées. Donc, j'appelle, je rends hommage à ce journaliste.
Alors, on n'a pas encore tous les détails de l'enquête, quand même. Ça, pour l'instant,
Certains médias nous disent ça, mais il faut attendre l'enquête, la finition de l'enquête, si on peut dire ainsi. Ouais. Bon, la question que j'aimerais poser à vos invités, est-ce qu'il y aurait des répercussions les Saoudis, c'est-à-dire cette famille saoudienne qui commande comme elle veut, et surtout ce prince qui attend le pouvoir et qui fait tout, parce que nous avons toujours eu un royaume qui est très stable et qui n'est pas confronté à ce genre de problèmes. Nous avons l'UN, nous avons ces problèmes-là aussi. Est-ce qu'il sera détrôné ? Est-ce qu'il aura le pouvoir ?
Ok, alors on va prendre Sami Aoun sur cette question et je donne un petit peu de background. Donald Trump a quand même admis jeudi la probable mort du journaliste et a promis des sanctions très lourdes en cas de responsabilité avérée des autorités saoudiennes. Ces possibles sanctions, c'est de la rhétorique ou ce sont des menaces sérieuses ?
Oui, il faut certainement être patient pour voir quelles sont les conséquences négatives au moment où on peut déclarer si jamais ces preuves sont vraiment bien documentées et hors de tout doute. Mais il faut dire encore qu'il y a une association entre l'administration Trump et ce prince héritier Mohammed bin Salman, parce que, comme vous le savez bien, le gendre de M. Trump, Jared Kushner, a aidé à l'ascension de ce jeune prince qui avait à ce moment 30 ans. Et donc, pas nécessairement qu'il le connaissait bien, mais sauf qu'il semble qu'il y a eu une certaine entente sur la gestion du conflit israélo-palestinien. Il y a eu une entente sur des investissements américains dans le royaume. Alors, ce qu'il faut aussi maintenant penser, c'est que le facteur extérieur est important, surtout celui américain, mais il reste quels seront, comme mon collègue l'a très bien dit, quelles seront les relations et les rapports de force entre les clans de la famille royale. Et sans rentrer dans les petits détails, mais on sait très bien qu'il y a eu un changement majeur dans la succession. Au lieu qu'elle soit, comme on dit en bon français, adelphique, c'est-à-dire de frère en frère du roi fondateur Abdelaziz, c'est devenu maintenant du roi actuel Salman à son fils. Alors ici, il y a une possibilité soit de revenir à la succession précédente, puisqu'il y a toujours un de ses frères qui est toujours vivant, soit faire de la sorte d'avoir une nomination d'un autre vice-roi ou un vice-vice-roi. Alors, il y a une possibilité de travailler, que ce soit une décision souveraine au sein de la monarchie et ne soit pas une décision imposée par des États-Unis ou d'autres. Alors, en ce sens, certainement, ce passage du prince héritier à être roi, il est fortement entaché. Et si on comprend très bien ce qui arrive dans les sociétés civiles occidentales, non pas nécessairement simplement au pouvoir, on voit qu'il a commis plus qu'un crime au sens direct, mais il a commis une grave erreur.
Mmh. Allez, on va prendre un autre auditeur. Cette fois-ci, il s'agit d'Alfred, de M. Mbouaki, hein, qui est à Kinshasa, n'est-ce pas ?
Voilà. Oui, Morgane, je suis Kine.
Alors, on vous écoute pour votre commentaire ou votre question.
Vous savez, Morgane, en tout cas, le monde est touché par le sens de la justice de la communauté internationale. Nous, on pensait que cette affaire allait se terminer comme ça. On allait la banaliser, mais en tout cas, les cas que cette affaire a provoqué, moi, je ne pouvais pas accepter que Donald Trump puisse garder encore de bons sentiments envers le prince Ben Salman ou bien l'Arabie Saoudite, son allié. Malgré les milliards que l'Arabie Saoudite déverse aux États-Unis, vraiment, la faute est trop grave pour que Washington soutienne Riyad. Donc, moi, je pense que tout ça concernant l'impunité. Lorsque la faute est commise, même si vous avez des alliances très fortes, la faute reste la faute, elle doit être sanctionnée. Donc je pense que Donald Trump a compris que cela peut aussi mettre en péril sa chance aux élections de mi-mandat qui arrivent là-bas. Cette affaire peut jouer. C'est ainsi qu'il a changé de ton. Donc le laxisme de Donald Trump n'allait pas lui donner faveur, lui donner raison. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on suive cette affaire jusqu'à la fin, jusqu'à la fin des enquêtes pour en déterminer les responsabilités. Si Riyad est vraiment coupable, non, il faut qu'on sanctionne. Vous savez, les sanctions qu'on donne là, l'embargo économique, non, on dirait que ce n'est pas efficace. Il faut une autre sanction pour que Ben Salman et les autorités de Riyad puissent être fléchis et puissent savoir que les crimes, l'assassinat et toutes les autres violations des droits de l'homme ne peuvent pas être cautionnées. Madame Morgane Guiriez, il faut qu'on unisse. Surtout la France, elle est en première ligne hein, dans cette affaire. Donc je félicite cela. Je la félicite. Vous êtes encore là ? Allô ?
Oui. Oui, on est toujours là, mais peut-être qu'on pourrait un petit peu... Est-ce que vous avez une question, alors ?
Ma question, je voulais savoir quelle marge de manœuvre la communauté internationale a vis-à-vis De l'Arabie Saoudite, parce que tout à l'heure j'ai écouté que les Émirats Arabes Unis menacent la communauté internationale parce que elle veut s'entraîner la chose d'affaires. Et les Émirats ont dit que tous ceux qui oseraient sanctionner l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui donne de la stabilité et la sécurité dans la sous-région, et qu'on ne devrait pas toucher à l'Arabie Saoudite. Donc, est-ce que les États-Unis et la communauté internationale ont une marge
de manœuvre
susceptible de pouvoir affaiblit vraiment les Riyad.
Oui.
Voilà ma question.
Alors, Jean-François Seznec, de quelle marge de manœuvre dispose la communauté internationale face à l'Arabie Saoudite?
En fait, tout ce que la communauté internationale peut faire, c'est se plaindre et mettre de la honte, si vous voulez, sur l'Arabie Saoudite, ce qui ne changera pas grand-chose. Mais par contre, il est certain que si l'affaire actuelle continue assez encore quelque temps, ça affaiblit le prince. Il est certain que la quantité d'investissements américains et d'investissements européens qui vont aller en Arabie Saoudite vont diminuer énormément. Et comme la base, le prince a fait toutes ses promesses sur les réformes qui sont un peu basées sur la quantité d'investissements qui se font de l'étranger pour créer du travail pour les Saoudiens. Si ça ne se passe pas, ça affaiblit le prince. Et comme le disait tout à l'heure Samé, il avait tout à fait raison, ça va permettre l'arrivée d'un autre crown prince au pouvoir. Ce sera, à mon avis, ils ne vont pas se débarrasser de Mohammed bin Salman en tant que tel, mais il va être, son pouvoir va être très affaibli et il va y avoir d'autres personnes qui vont travailler avec lui et à long terme ou même à court terme, on ne sait pas encore, le remplacer. Mais il est certain que la communauté internationale ne peut rien faire en tant que tel et les décisions doivent être et seront des décisions souveraines. Si les Saoudiens pensent que les États-Unis imposent leur volonté ou que la communauté internationale impose sa volonté sur le pays, et pas uniquement sur la famille, sur le pays, ça ne se passera pas. Donc ça fait le contraire de ce qu'on veut faire, en fait.
Mais alors, vous êtes en train de dire que les investissements occidentaux risquent de diminuer. Comment ça ?
Ben parce que vous savez que le prince Salman fait cette grande conférence dans une dizaine de jours, oui, à Riyad, qui s'appelle Davos dans le désert, et essaye de faire venir des milliards de dollars d'investissements étrangers, surtout dans les industries technologiques, pour développer le pays. Et à l'heure actuelle, à cause de ce qui s'est passé avec Jamal Khashoggi, la conférence va se faire, mais les gens importants ne seront pas là. Mmh. Et personne ne va investir. Donc, les investissements, il y a des investissements étrangers, bien sûr, importants, surtout dans l'industrie en Arabie Saoudite, mais il n'y aura pas de nouveaux investissements tant que tout ça n'a pas été clarifié devant la communauté internationale.
Ouais. Et alors, les parlementaires auraient suggéré une série de mesures allant de sanctions économiques au gel de vente d'armes. Est-ce que cela vous semble possible ?
Oui et non. Mm-hmm. Il est certain que Sabine aussi parlait du fait qu'il y a plusieurs. Il y a des différences entre les clans en Arabie Saoudite. On a des différences entre un peu les clans aux États-Unis, si vous voulez, au sens où le Congrès est tout à fait opposé à ce que veut faire l'administration Trump. Oui. Il est certain que les sanctions dont on discute au Congrès en ce moment, qui à mon avis vont passer facilement, vont être des sanctions sur les personnes, mais pas vraiment sur les affaires militaires. Les ventes d'armes sont trop élevées, trop importantes pour le travail des Américains, parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui dépendent de ces contrats. Donc, à mon avis, ça ne passera pas parce que le Sénat ne votera pas pour ça en majorité. Mais par contre, ils vont certainement passer des lois pour la punition, les sanctions, pas la punition, mais les sanctions contre des individus, dont peut-être même le Crown Prince, si c'est très embarrassant pour les États-Unis. Alors, l'administration Trump n'est pas du tout en faveur de ça, et donc le gouvernement est divisé, si vous voulez, là-dessus, et on va voir un peu comment ça se passe, et la façon dont ça va se passer sera très influencée par ce qui va se passer à Riyad, ce qui se passe en ce moment à Riyad, avec le roi et le Crown Prince et les autres clans, pour savoir comment ça va résoudre la crise.
Alors, Sami Aoun, hein, on vient de voir que les investisseurs risquent de ne pas se rendre à Riyad prochainement. Est-ce que Riyad pourrait, à son tour, essayer de prendre des mesures de rétorsion? Est-ce que Riyad a une marge de manœuvre?
Pas nécessairement, peut-être une rhétorique un peu pour faire une mobilisation nationaliste, patriotique dans les milieux saoudiens. Mais dans les vrais chiffres et les faits, le prince héritier, MBS comme on l'appelle maintenant communément, a eu déjà dans la première phase avant cet événement malheureux de l'assassinat de Khashoggi ou sa disparition, il avait déjà une bonne prise de conscience que l'État saoudien, l'État rentier comme on l'appelle, est en crise et en crise profonde et il avait besoin d'aller diversifier les sources de revenus et aussi ouvrir ce royaume qui a une lecture intégriste ou littéral ou rigoriste de l'islam, l'ouvrir un peu sur les circuits mondiaux, surtout sur la façon de vivre occidentale. Et en ce sens, il va ouvrir l'entertainment, ouvrir le divertissement, permettre aux femmes de conduire leurs automobiles, ainsi de suite. Sauf que ce réformateur va tomber dans l'autre penchant qui est malheureux pour lui, et qu'il devient autoritaire jusqu'à faire humilier les autres princes d'une façon un peu spectaculaire, théâtrale, pour aller leur imposer son dictat et affirmer son pouvoir à leur détriment. Encore, les mêmes demandes qui ont été faites par M. Khashoggi ou d'autres pour une libéralisation, qu'elle soit économique, mais surtout pour un libéralisme politique, ont eu l'oreille sourde. Preuve en est qu'il va permettre aux femmes saoudiennes de conduire, mais en même temps, les femmes qui ont réclamé ce droit sont aujourd'hui en prison. Alors, être réformateur et être un despote éclairé, ça va certainement peut-être limiter son envergure pour l'instant. Surtout, il y a un changement majeur, que cela a été permis avec un Saddam Hussein, par exemple, ou un Kadhafi. Mais c'est plus permis avec un sursaut des droits individuels et des droits de la personne dans les sociétés occidentales. Malgré cela, on a une crise, n'est pas saoudienne nécessairement, mais c'est une crise qui est dans nos sociétés démocratiques, libérales et surtout en Occident. Et les relations internationales ne peuvent pas simplement circuler sur la priorité de l'éthique ou des valeurs. Et vous devez toujours avoir des relations internationales où il y ait un équilibre entre valeurs et intérêts. Tout l'embarras américain et aussi d'autres pays, Canada et autres, et où on n'arrive pas à avoir ce bon équilibre entre nos valeurs et nos intérêts, de la sorte que laisse un vide pour la Russie et la Chine qui n'ont pas cette sensibilité à l'égard des droits de la personne. Et parce que la stratégie, les relations internationales sont sélectives, on peut fermer l'œil sur les génocides et les massacres qui se font en Syrie, en Irak, en Libye, au Yémen. Et en même temps, quand il y a un crime de cette horreur contre un journaliste, on voit un sursaut, je ne dis pas inégalé, mais je dirais que les gens du Moyen-Orient ne le comprennent pas facilement.
Oui, oui. Bah écoutez, voilà, c'est la musique qui annonce la fin. C'est toujours très court. Merci en tout cas à vous, Sami Aoun et Jean-François Seznec, pour votre contribution. Merci à nos auditeurs et à la production. On avait Lionel Gaïma, Morgane Guiriec au micro. À bientôt.